Oui, c'est vrai que avec Gilles, on a une longue histoire. Hein. On a partagé les mêmes chambres sur les planchers, dans des lieux qui n'étaient pas toujours, toujours confortables. Mais voilà, on a survécu, même si on a un peu mal au dos des fois. Mais je pense que c'est pas à cause de ça. Voilà. Et ça me fait plaisir de venir dans cette ville que je ne connais pas. Je crois que moi, je suis d'origine normande. Je viens, en fait, mes parents sont du nord de la France, la région de Lille, mais j'ai grandi en Normandie et je ne connais pas très bien l'Aisne. Et je découvre avec cette petite visite aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de visiter la France. La France est un beau pays, même si j'ai compris que vous avez été traversé par un petit ouragan hier, là. Enfin, on m'a dit, la nouvelle, c'était qu'il y avait des arbres qui étaient tombés, ou même il y a eu quelqu'un qui est décédé dans l'Aisne. J'ai compris ça. Donc, voilà, ça nous rappelle que Dieu est tout-puissant et que des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Et ce matin, je dois, Gilles m'a proposé de parler de la question de notre attitude face à la pauvreté. Et je ne voudrais pas paraître, même si c'est vrai, j'ai eu des responsabilités dans des œuvres qualifiées d'humanitaire. Je ne pense pas que je sois un spécialiste, mais je veux partager avec vous un peu de ce que j'ai vécu. Et puis surtout de ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est toujours bienfaisant d'écouter la parole de Dieu. Alors, avant de prendre le texte qui va être un peu l'objet de notre méditation, qui va se trouver dans le livre des Actes au chapitre 3, je voulais faire deux remarques qui me paraissent importantes et que j'ai appris, oui, c'est vrai, grâce à un collègue quand je travaillais avec le SEL. Ce collègue s'appelle Daniel Hillion. Si jamais vous avez l'occasion de lire des livres ou des articles qui ont été écrits par Daniel, je crois que vous serez souvent édifiés. Alors, notre ami, justement, Daniel, me disait que finalement, nous sommes tous pauvres. Il n'y a pas les pauvres et les riches, comme dans certaines vision du monde où on essaye d'opposer les pauvres et les riches. Devant Dieu, nous sommes tous pauvres et ça remonte à loin. Ça remonte au jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève, nos premiers parents, ont décidé de rompre l'alliance avec Dieu. Parce que la pauvreté ne se mesure pas, contrairement à ce qu'on pense, aux chiffres que vous trouvez sur votre feuille de paye, si vous en avez une. La pauvreté se mesure à la qualité de nos relations. Et le jour où Adam et Ève ont décidé de rompre la relation avec celui qui les avait créés, ils sont devenus pauvres. Ils sont devenus pauvres. Quand j'étais à la mission évangélique parmi les sans-logis, les personnes qu'on accueillait au quotidien, quand on posait quelques questions sur les raisons qui avaient éventuellement conduit cette personne à venir nous voir pour prendre un repas ou pour demander un coup de main, il y avait toujours et toujours une rupture. C'était une rupture conjugale, c'était une rupture familiale, c'était une rupture économique à cause d'un chômage, c'était une rupture à cause d'une migration où la personne venait, elle avait quitté son pays et elle arrivait dans un nouveau pays, elle était perdue, elle était en rupture. Il y a toujours à l'origine de la pauvreté une rupture. Et la plus grande de ces ruptures, comme nous le savons tous, c'est la rupture avec Dieu. Et Adam et Ève l'ont très vite vécu. Quand nous lisons le texte de l'origine, vous connaissez, quand ils ont mangé le fruit, ils ont eu les yeux ouverts sur leur nudité. Ils ont découvert qu'ils étaient nus, alors qu'avant, pas de problème. Et là, tout à coup, il a fallu s'habiller. Alors vous connaissez la suite. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu lui-même a dû les couvrir. Parce que la relation avec Dieu avait été brisée lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. Mais la relation entre Adam et Ève a été brisée. Ils ne pouvaient plus vivre dans la transparence, dans l'honnêteté intégrale de la nudité. Il fallait se couvrir. Sans doute c'était la honte, sans doute c'était d'autres sentiments qui les animaient. En tous les cas, ils ont dû, premièrement, donc, fabriquer une espèce de robe de table, de feuilles de figuier, et puis Dieu a pourvu. La première action sociale de Dieu, ça a été de couvrir Adam et Ève par la peau d'un animal qui était déjà le symbole de celui qui allait mourir pour nous couvrir de sa justice. Ça, c'est l'action sociale de Dieu, la première, face à la pauvreté du premier couple qui s'est transmise de génération en génération. Et cette réalité fait que finalement, on est tous à la même enseigne. Il n'y a pas de riches et de pauvres. Il n'y a que des pauvres qui ont besoin d'être enrichis par la grâce. Ça, c'est la réalité selon le projet de Dieu. Alors, il faut que je reprenne. Pardon, je dois... J'ai perdu mon petit... Il s'est éteint. Alors, premier principe, la pauvreté universelle de l'homme depuis la chute. Le deuxième préambule que je dois vous dire, malheureusement, c'est que la pauvreté sur la terre est là pour durer. Jésus a fait cette remarque alors que cette femme est venue pour marquer son adoration par un vase de parfum très cher qu'elle a brisé à ses pieds. Et vous connaissez la remarque des disciples et de Judas en particulier qui a dit mais quel gaspillage ! On aurait pu donc donner cet argent au clochard du quartier. Et Jésus leur a dit non, elle a fait le bon choix. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Alors bien sûr, il y en a qui prennent ça comme un blanc-seing pour dire bah, finalement, ce n'est pas la peine de les aider, les pauvres, parce qu'il y en aura toujours. Donc ce n'est même pas la peine de commencer. Tant pis pour eux. Nous, on a peut-être assez à manger, donc c'est très bien. Non. Non, Jésus voulait nous dire qu'il y avait des choses prioritaires. Et que cette femme qui a brisé ce vase de parfum, elle avait vu clair. Elle avait vu l'importance de ce moment où elle devait. Elle a certainement cassé la tirelire pour donner à Jésus l'honneur qui lui était dû, parce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait plus que tout. Mais face à cette réalité de la pauvreté qui est là, Dieu nous propose des solutions. Et nous la voyons, cette solution, dans le livre des Actes, où lorsque la première Église a pris naissance, ou après la Pentecôte, nous voyons que l'Évangile a déjà produit du fruit, il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont converties, qui se sont attachées les uns aux autres, qui se sont attachées au Seigneur et qui ont fondé la première communauté. Nous lisons dans le chapitre 4, verset 34 des Actes des Apôtres, « Il n'y avait parmi eux, parmi ces premiers chrétiens, aucun indigent, aucun pauvre. » Il n'y avait pas de pauvre dans la première Église. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient décidé spontanément, sans même que Dieu le demande, spécifiquement, de mettre la bourse en commun, de vendre leurs voitures, leurs ordinateurs, leurs tracteurs. Et ils ont dit, on fait la bourse commune et on partage. Et donc, la solution, c'est qu'il n'y avait plus de pauvres. Et ça, c'était la volonté de Dieu depuis le début, qu'il n'y ait pas de pauvres sur la terre. Et d'ailleurs, dans le peuple de l'Ancienne Alliance, c'était aussi la volonté de Dieu, qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu du peuple. Malheureusement, la situation n'a pas duré très longtemps dans cette optique, mais c'était la volonté de Dieu. Et cette même volonté de Dieu s'est reproduite lorsque il a démarré son projet de cette nouvelle communauté, ce nouveau peuple qui était créé grâce à la venue du Saint-Esprit. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et ça, c'est le fruit de la repentance. La repentance et la grâce fait qu'on est prêt à partager. On sait, et le livre des Actes est suffisamment honnête et vrai pour nous dire que la chose n'a pas été simple. Parce que dès le chapitre 6 du livre des Actes, nous voyons qu'il y a des tensions entre les chrétiens d'origine grecque et ceux d'origine juive. Ils étaient tous juifs, mais il y en avait qui venaient de la Grèce et d'autres qui étaient de Judée. Et là, il y avait quelques tensions, quelques jalousies, un peu comme on a lu tout à l'heure, parce qu'il y en a qui se jugeaient un peu malmenés par rapport aux autres. Mais nous savons que c'est quand même l'idéal que Dieu veut pour nous, dans l'Église, en tous les cas, que nous puissions vivre de la providence de Dieu, de cette promesse que lui nous a faite, en disant « Occupez-vous du royaume de Dieu et moi, je m'occupe de la logistique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et moi, je vous donnerai à manger. » Ça, c'est la promesse que Jésus nous a faite. Et la question pour nous, nous qui sommes ici ce matin, c'est d'essayer de vivre de cette promesse et de croire que Dieu va s'occuper de moi, même si je n'ai pas un salaire fixe, même si je n'ai pas une situation très stable, je suis prêt à marcher avec le Seigneur. Parce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais nous savons aussi qu'à travers ce témoignage de la grâce de Dieu à l'œuvre dans cette nouvelle Église, Dieu voulait manifester au monde extérieur qu'il était un Dieu bon, un Dieu qui allait pourvoir, un Dieu de grâce, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui était capable de nourrir les 6 milliards, je crois, on est aujourd'hui. Je ne sais plus très bien. J'ai du mal à compter. Mais en tous les cas, on est nombreux. Dieu est capable. Dieu est capable de nourrir tout le monde. Le problème, c'est bien sûr, nous les connaissons, ces problèmes d'injustice, ces problèmes de mauvaise répartition, ces problèmes de ceux qui retiennent la richesse et qui ne veulent pas la partager avec d'autres. Mais Dieu est venu à travers Jésus-Christ, pour casser cela. Et il veut que l'Église soit cette espèce de fer de lance qui va manifester cette grâce, qui va se matérialiser par la bonté, par la guérison, par la provision. Et Jésus l'a vécu. Il a donné à manger à des milliers de gens avec quelques pains et poissons. Il a guéri, il a ressuscité, il a donné la santé à ceux qui ne l'avaient pas. Et quand Pierre s'est retrouvé devant Corneille, vous savez, ce centurion romain, le premier, on va dire, non-juif qui s'est converti, quand il a décrit, apparemment cet homme n'avait jamais rencontré Jésus, il lui a dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Ça, c'est la description que l'apôtre Pierre a donnée à Corneille lorsqu'il est entré dans sa maison. Et il n'osait même pas rentrer parce qu'il se sentait sur un terrain impur. Parce que ce Corneille, c'était un païen, lui, il était juif. Il ne savait pas trop s'il avait le droit de rentrer. Finalement, il est quand même rentré. Et il a décrit ce que Jésus avait fait avec lui quand il était apôtre, quelques mois ou quelques années avant, certainement quelques mois. Ce Jésus qui allait de lieu en faisant le bien, en guérissant les gens, en les délivrant du diable. Et ce Jésus, il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que l'Église continue ce travail qu'il a commencé. Ce travail qui consiste à faire du bien, à guérir et à délivrer. Ça, c'est la mission qui est devant nous. Aujourd'hui, 2000 ans après que Jésus soit parti, nous sommes appelés à démontrer autour de nous, à Saint-Quentin, à Paris et ailleurs, que Dieu est un Dieu qui délivre. Un Dieu qui fait du bien, qui veut faire du bien. Et un Dieu qui n'est pas à court de ressources, mais il le fait passer par nous. Ça, c'est notre mission. Voilà un peu ce que je peux dire en introduction par rapport à ce passage que nous voulons relire ensemble, qui se trouve quasiment sur la même page que Acte 4, c'est Acte 3. Lorsque Pierre et Jean sont montés au temple, acte 3, verset 1, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, donc 3 heures de l'après-midi. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Mais regarde-nous !» Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardon, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, en marchant, en sautant et en louant Dieu. Voilà, c'est certainement pas la première fois que vous lisez ce texte. Mais ce texte me parle à moi et j'espère pouvoir vous transmettre ce que je reçois à travers ce texte. Finalement, ce récit nous place dans une situation presque ordinaire. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez rencontré le dernier clochard, peut-être ce matin. Vous l'avez vu, il était peut-être sur votre chemin. Moi, à Paris, j'en vois trop, tous les jours. Et des fois, c'est vrai que je suis fatigué. Fatigué d'être confronté à cette réalité. Pierre et Jean sont là, ils sont venus pour prier. Ça, c'est ce pourquoi ils sont venus au temple. Ils sont venus pour prier. On pense que peut-être, on est un peu surpris de voir qu'ils vont au temple, parce qu'on a l'impression, nous, bien sûr, qui vivons 2000 ans plus tard, que le temple, c'était fini, que pour eux, ils étaient devenus nés de nouveau, ils avaient oublié le temple. Mais non, pour eux, c'était encore le lieu de rencontre, le lieu où on pouvait adorer Dieu, même s'ils étaient, bien sûr, renouvelés par le Saint-Esprit. Le temple, c'était le lieu de la rencontre. Et il est dit d'ailleurs dans le verset, dans quelques versets avant, dans la fin du chapitre 2, qu'ils se réunissaient régulièrement au temple. Ça faisait partie de leur lieu de rencontre. Et là, on est à la charnière entre les deux pratiques, les pratiques juives d'un côté, et puis les nouvelles habitudes qui vont se forger dans les églises où on va oublier le temple et on va venir dans l'église de Saint-Quentin. Mais là, nous sommes à la charnière de cette période. Et là, Pierre fait plusieurs choses. Pierre, il s'arrête, il fixe les yeux sur cet homme, il l'interpelle et il lui donne ce qu'il a et non pas ce que cet homme attend. L'attitude de Pierre nous interpelle parce que c'est clair que Pierre avait déjà vu certainement cet homme. Il était là tous les jours. Le texte dit, on venait l'apporter. Donc cet homme était impotent. Il n'était pas en mesure de se déplacer correctement et il y avait des gens qui le plaçaient là pour qu'il fasse sa petite récolte quotidienne. Mais ce jour-là, pour une raison que j'ignore, Pierre décide de regarder cet homme. Il s'arrête. Il s'arrête. Il n'accepte pas le statu quo. Il n'accepte pas que cet homme soit là sur son chemin tous les jours, alors qu'il est là, lui, il vient pour prier. Il dit, c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Pierre s'arrête. Il n'est pas comme le lévite ou le prêtre sur le chemin de Jéricho qui font un petit détour pour éviter le brave gars qui était dans le fossé. Non, lui, il s'arrête. Il s'arrête en fixant les yeux sur lui. Il attache encore plus d'importance à cet homme qui cherche certainement à pas trop se faire repérer, parce que quand on est dans cette situation, on est content de récolter un peu d'argent, mais on est plutôt pas très heureux de se faire repérer. Mais lui, il le regarde, parce que cet homme, pour Pierre, il a de l'importance. Non seulement il s'arrête, mais il s'adresse à lui. Au-delà du mendiant boiteux, Pierre voit un homme, un vis-à-vis, un frère en humanité, capable de répondre si on lui pose une question. Ce n'est pas un objet. Un mendiant, ce n'est pas un objet. Même si parfois on peut le considérer comme tel. Et son intérêt va au-delà d'un regard franc, parce qu'il s'adresse à lui. « Regarde-nous, dit-il. » Pierre veut un échange. Il veut une relation. Il veut créer une relation. Peut-être que cet homme, lui, il voulait juste des sous. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais Pierre, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit « Regarde-nous ». Il y a là la volonté d'un échange, d'une relation que Pierre veut établir avec lui. Et bien sûr, l'homme, lui, reste dans son monde, dans son univers de la mendicité. Il attend la pièce. Il est là pour ça. C'est presque sa raison d'être ici. Je me souviens des gars qui venaient à la mission. Souvent, ils étaient dépendants de l'alcool ou de la drogue. Et parfois, je les entendais dire entre eux, « Bon, il faut qu'on aille travailler. » Et pour eux, travailler, ça veut dire faire la manche. Quand ils étaient sur la place, là, à la mission, ils ne faisaient pas la manche. Mais tout d'un coup, ils décidaient, ils avaient des heures. Ils disent, maintenant, on va aller travailler. Travailler, ça veut dire ça. Interpeller les gens, là où ils pouvaient les trouver. Pierre ne rentre pas dans le jeu de cet homme. Pierre, lui, est dans un autre monde, dans un autre royaume. Le royaume de celui qui l'envoie ici pour prier, mais aussi pour glorifier le Dieu qu'il connaît. Il invite cet homme à sortir de sa misère en partageant avec lui ce qu'il a. Et Pierre, curieusement, il n'a pas de sous. Il n'a pas de sous. Donc, qu'est-ce qu'il a ? Il a la foi. C'est ça. Il emmène cet homme sur le terrain de la foi. Et souvent, quand on a des gens dans la rue qui sont devant nous, on rentre dans leur jeu. On leur donne une pièce, comme ça, ça nous donne bonne conscience, et eux, ils sont contents. Il y a un petit marché qui se traite avec les clochards que nous rencontrons. Et ce marché-là ne fait pas partie du royaume de Dieu. Parce que, finalement, ce que Pierre fait ici, c'est qu'il sort cet homme de sa situation de mendicité en lui disant « Moi, je t'ouvre une porte. Moi, j'ai pas de sous. Mais j'ai la foi dans ce Dieu qui peut te relever. » Sa foi dans un Dieu capable de transformer cet homme du tout au tout. Alors bien sûr, on peut se demander, est-ce que c'est la foi de Pierre ou la foi de cet homme qui a guéri cet homme ? Je pense que c'est Pierre qui a encouragé cet homme à croire par sa volonté de lui ouvrir la porte. Pierre lui donne ce qu'il a. C'est sa foi dans un Dieu capable de guérir. Cette foi en un Dieu tout-puissant, capable de guérir et de remettre sur pied un homme malade. Vous remarquez que Pierre ne prie pas. Pierre ne prie pas. Il le saisit. Il l'interpelle. Je te le dis, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est un appel auquel cet homme aurait pu dire « Ah non, ton Jésus, là, moi je ne le connais pas, il vient de Nazareth, là. C'est où Nazareth ? C'est quoi Nazareth ? Moi, je suis de Jérusalem. Nazareth, c'est dans la brousse. C'est là-haut, en Galilée. Mais non. L'homme, bien sûr, a ouvert son cœur et Pierre lui tend la main comme pour l'encourager. Saisit la main droite. Parce qu'il sait que c'est un pas de foi. C'est vrai pour cet homme d'ouvrir son cœur à ce Jésus de Nazareth, qui était certainement peut-être pour cet homme un illustre inconnu. Et Dieu est tout-puissant. Il lui saisit la main droite et le relève par la puissance de Dieu. Alors bien sûr, on apprend ici beaucoup de choses. En pensant à ce passage, bien sûr, on a tous des expériences d'avoir vécu des rencontres un peu du même type. Moi, je n'ai pas eu la foi pour relever un mendiant grabataire. Mais je me souviens avoir parlé avec un homme un peu démuni dans un parc à Fontenay-sous-Bois. Que, voilà, il était là, il était un peu errant. Et après avoir échangé un petit moment avec lui, je lui ai dit « on va prier ». Et alors j'ai prié, j'ai fermé les yeux, j'ai prié avec lui, pour lui. Et quand j'ai réouvert les yeux, j'ai vu que cet homme avait enlevé son chapeau. Et j'étais impressionné. Parce que le fait de prier sur ce banc public à Fontenay-sous-Bois, j'avais fait pénétrer cet homme dans la présence de Dieu. Il avait enlevé son chapeau comme un signe pour honorer celui vers lequel, à celui auquel nous nous adressions. Et ça m'a fait du bien de savoir que ce simple geste, j'avais pu emmener cet homme vers Dieu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après, mais je pense que c'est ça notre rôle. C'est ça que Pierre a fait ici, avec la foi qui était la sienne, avec la puissance de l'Esprit qui était sur lui à ce jour-là. Mais c'est d'emmener cette personne, celui que nous rencontrons, le pauvre, entre guillemets, qui est aussi pauvre que moi, devant Dieu. Mais moi j'ai la foi, lui il l'a pas. Et je dois l'emmener sur ce terrain-là. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre s'est arrêté. Il n'a pas considéré cet homme comme transparent. Pierre a voulu échanger avec lui en essayant de briser la glace, en lui disant « Oui, regarde, regarde-moi, regarde-nous, n'aie pas peur. Nous sommes pauvres comme toi, sauvés par la grâce. » Ça, c'est la réalité de ce que nous pouvons dire à un homme comme lui. Et Pierre, comme je l'ai dit, ne tombe pas dans l'échange bien-pensant de l'aumône en donnant ce que l'homme attend. Non, Pierre emmène cet homme dans son royaume. Et cet homme va y entrer en chantant et en dansant. Ça, c'est la réalité de ce que nous lisons ici. Il fut debout et se mit à marcher, et il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. C'est intéressant de voir que l'histoire commence à la belle porte. C'est la porte qui, selon les notes que vous lirez dans votre Bible, c'est la porte réservée aux Juifs. C'était le parvis des Juifs. Et elle se termine au portique de Salomon. Et là, si vous lisez aussi les notes que vous aurez dans votre Bible, vous voyez que vous êtes sur la porte qui s'adresse au parvis des païens, de ceux qui ne sont pas juifs. Il y a là une dimension du témoignage qui est intéressante, où on voit que grâce au miracle qui s'est produit, eh bien l'Église a témoigné justement de la grâce et de la puissance de Dieu à l'extérieur même du peuple juif. Déjà, les païens étaient touchés à travers ce qui a pu se passer. Et c'est intéressant de discerner que Dieu utilise cette action pour se glorifier. Et je pense que c'est ce qu'il fait aussi à travers l'Église. C'est ce qu'il a fait à travers l'histoire, à travers des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église grâce à des engagements qu'ils ont pris, à des décisions où ils ont mis leur foi en action. Je pense à des hommes comme Wilberforce. Ça vous dit quelque chose ? Un homme comme Wilberforce, un député anglais, qui, à cause de son attachement à Jésus, a décidé de lutter contre le commerce des esclaves en Angleterre. Il a passé toute sa carrière de député à lutter contre l'esclavage. Ça a été pour lui un combat d'une vie. Il a passé 30 ou 40 ans à se battre, et 3 mois après sa mort, la loi est passée. Des hommes qui ont marqué l'histoire à cause de leur foi et qui sont devenus des témoins. Je pense à un homme qui est né à Saint-Quentin, dont vous devez tous lire la biographie. Il s'appelle André Trocmé. Tu connais ?
De nom.
André Trocmé, fils d'un grand, d'un riche protestant de la ville d'ici, qui avait une entreprise. André Trocmé, il est donc né dans une famille protestante plutôt libérale en 1905. Et il a vécu, jeune enfant, jeune adolescent, vers 13-14 ans, il habitait ici et il a vu les soldats de la Première Guerre mondiale qui revenaient du mur de la Somme, enfin du front de la Somme, qui était complètement démoli. Mais démoli. On les appelait les gueules cassées. Il n'était pas encore chrétien à l'époque. Mais il a décidé, quand il a vu les horreurs qu'il a vues et qui l'ont marqué en tant qu'ado, il a dit « Moi, je serai pacifiste ». C'était devenu un engagement de vie. Il n'était pas encore chrétien, il s'est converti quelques années plus tard grâce au mouvement de scoutisme de l'Église réformée de l'époque, les éclaireurs. Il est devenu pasteur et il était toujours aussi pacifiste et il n'a pas renié ses engagements qu'il avait pris avant. Il est devenu pasteur, il a servi dans le nord de la France à Saint-le-Noble. Dans un pays à l'époque, donc c'était dans les années 30, qui était profondément marqué par le travail ouvrier, l'alcoolisme. Il n'y avait pas de drogue à l'époque, c'était surtout l'alcool. Et il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre parmi les alcooliques. Il a témoigné de la grâce de Dieu. Mais il est surtout connu parce qu'il s'est retrouvé ensuite pasteur au Chambon-sur-Lignon, sur le plateau derrière Saint-Étienne, où il a sauvé des centaines et des centaines d'enfants juifs de la persécution nazie. Et il l'a fait au nom de Jésus, en tant que pasteur de l'Église dont il était donc en charge. Et son récit est poignant parce qu'on voit que sa foi l'a conduit à faire des actes de foi qui l'ont emmené jusqu'en prison, puisqu'il a été interné sous le régime de Vichy à cause de ses engagements pacifistes. Et il a été reconnu après, bien sûr, comme juste parmi les nations. Et il a été reconnu par la communauté juive comme un sauveur. Ça, c'est quelqu'un qui a mis sa foi en action et qui est allé au-delà de ce qu'on peut attendre normalement parce qu'il était convaincu que Dieu l'appelait. Je pense à Mon frère Marcel. Mon frère Marcel, il est venu ici, Marcel ?
Encore, il est venu faire une émission radio.
Marcel, c'est le frère de Gilles. Marcel, c'est un copain aussi, un frère, qui a mis sa foi en action. Il a entendu parler des prostituées un jour qui vivaient dans les rues de Nantes, où il habite. Il était touché par la misère de ces filles qui viennent en grande partie d'Afrique et il a décidé de s'engager dans une association qui n'était pas chrétienne pour apporter du soutien de manière très concrète, de les aider à sortir de la prostitution. Donc il faisait partie de cette association. Et un jour, il y a une fille qui a été prise en charge par ce réseau et qui a commencé à faire des crises d'hystérie quand on a essayé de la soigner ou de s'occuper d'elle. Et les braves gens de cette association, qui n'étaient pas chrétiennes, ont dit on ne sait pas quoi faire avec cette fille parce qu'elle a vraiment des comportements hystériques, on ne sait pas. Et Marcel, toi, tu es pasteur, tu vas prier pour elle. Ils l'ont appelé au téléphone. Parce qu'il savait qu'il était pasteur et que lui, il appartient à un autre royaume. Et cette jeune femme a été délivrée grâce aux prières que Marcel a pu faire avec elle. Elle est devenue la première d'une longue série de plusieurs dizaines, je dirais centaines de filles qui ont été sorties du réseau de la prostitution à Nantes. Et ailleurs, parce qu'il y a eu un réseau qui s'est créé, qui s'appelle le réseau Liberté, qui a des points d'ancrage dans différentes villes de France, et qui ont été l'émanation de cette première expérience à Nantes. Marcel, c'est un gars comme toi et comme moi. Il a mis sa foi en action. Et c'est vrai que ça demandait parfois un peu de courage parce qu'il avait affaire à des gens qui n'étaient pas toujours bien intentionnés à son égard, surtout quand il voyait que les filles quittaient le réseau et que les proxénètes comprenaient qu'il y avait quand même un problème. Mais le Seigneur a protégé la ville de Nantes. Les églises se sont rassemblées autour de Marcel et de sa petite équipe pour créer un réseau de soutien, d'accueil. Ils ont créé, il y a des églises qui ont même installé une chambre dans leurs locaux, même si c'était illégal, pour pouvoir accueillir les filles lors des premières, dès qu'elles voulaient sortir du réseau, elles avaient un lieu en dehors de leur appartement, où elles étaient en sécurité. Et ça, c'est en France, c'était il y a 3 ou 4 ans. Et je pense que là, on a l'exemple de ce que Dieu est capable de faire à travers un homme, à travers une femme, qui est prêt à mettre en action sa foi dans une situation particulière. Que ce soit voilà, d'aider quelqu'un qui est dans la prostitution, d'aider une personne qui est en défaillance, peu importe. C'est là où Dieu nous demande d'aller, dans notre soutien et dans l'œuvre que nous sommes appelés à accomplir pour son royaume. Et en conclusion, j'aimerais juste vous donner quand même cette promesse que Dieu nous donne dans les Proverbes. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Il y a là un vrai encouragement. Un encouragement au capitalisme du royaume. Les banques nous font toutes sortes de promesses pour placer des sous, pour ceux qui en ont, en disant qu'on va avoir des rendements formidables. Et là, Dieu nous fait une promesse. Si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à l'Éternel et je te rendrai tes bienfaits. Dieu se porte garant du pauvre. Vous avez peut-être eu besoin d'un garant une fois dans votre vie, quand vous avez loué un appartement, quand vous avez fait un emprunt. On vous demande des garanties. On vous dit, il y a quelqu'un derrière vous qui est prêt à payer si jamais ça ne passe pas. Hein? Il faut toujours les garanties. Dieu se prête garant du pauvre. Jésus va reprendre la même idée avec le jeune homme riche, en lui disant, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ça, c'est du placement. C'est du bon placement. N'est pas pour la pauvreté. Il est pour le bon placement. Placement dans le royaume. Et c'est ça le défi pour nous aujourd'hui. Avec ce jeune homme riche que Jésus a rencontré, nous avons affaire à une histoire triste. Et d'ailleurs, il est reparti tout triste. Ce brave jeune homme, parce que Jésus lui a dit, tu es riche, tu sais pas comment entrer dans le royaume des cieux. Il te manque une seule chose. Il te manque une seule chose. Viens et suis-moi. La richesse de cet homme, même religieux, n'était pas suffisante. Il te manque une chose. Viens et suis-moi. Voilà le défi pour nous, encore aujourd'hui encore. Le défi de la confiance pour suivre Jésus. Là où il va nous emmener. Et je pense que vous êtes là pour témoigner que là où il vous a emmené jusqu'à aujourd'hui, il ne vous a pas déçu. Parce que Dieu nous emmène sur des terrains qui sont des bons terrains, des verts pâturages. Il te manque une seule chose. Viens et suis-moi. Amen. On va prier.